Bonsoir. Hors du vaccin, pas de salut. Le gouvernement renforce la pression sur les non-vaccinés contre le Covid-19. Pour les soignants, la troisième dose sera obligatoire dès fin janvier. Les autorités en appellent à la responsabilité des Français pendant les fêtes. À Paris, le feu d'artifice et le concert du Nouvel An sont annulés. Ailleurs en Europe, les fermetures reviennent dans l'actualité. Nous irons aux Pays-Bas, où le Premier ministre tiendra une conférence de presse dans une heure. Le football français à nouveau dans la tourmente, après les incidents d'hier soir entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. La Fédération française de football promet des sanctions et les vrais supporters, eux, sont dépités, vous les entendrez. Et puis de la grisaille demain dimanche, prévision de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Se vacciner pour passer la vague actuelle de Covid-19 en limitant les dégâts. Le message est martelé à nouveau aujourd'hui par le gouvernement. Ce matin, sur France Inter, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé de nouvelles mesures. La troisième dose, celle de rappel du vaccin, sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. La vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans devrait commencer dès mercredi sur la base du volontariat. Des annonces qui s'ajoutent à celle du Premier ministre hier soir, avec notamment à partir de l'an prochain la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Alors pourquoi miser autant sur le vaccin alors qu'il n'empêche pas forcément la contamination ? Eh bien parce qu'il permet d'éviter les formes graves de la maladie. Actuellement, 3000 personnes sont hospitalisées en réanimation en France, en majorité des non-vaccinés, explique le professeur Bruno Mégarban, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris.
À l'assistance publique hôpitaux de Paris, une enquête a été conduite. 75% des patients admis en réanimation aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Et donc ce sont essentiellement des personnes plutôt jeunes, entre 40 et 60 ans, qui soit par négligence, soit par conviction, n'ont pas souhaité se faire vacciner. Ils ont en fait très peu de comorbidités. C'est pourquoi évidemment il faut encourager la totalité de la population adulte à se faire vacciner et ne pas penser qu'en n'ayant pas de comorbidités, eh bien on est protégé contre un risque de faire une forme grave de la maladie. Et le deuxième contingent, ce sont des patients qui sont vaccinés, plutôt normalement vaccinés, c'est-à-dire qui ont eu leurs deux doses, parfois même leur troisième, voire leur quatrième dose, mais ils sont sévèrement immunodéprimés en raison d'une maladie sous-jacente, d'un cancer, d'une greffe d'organes, de thérapeutiques immunosuppressives. Et de fait, en fait, c'est pas un échec du vaccin, c'est que leur corps n'a pas réussi à produire l'immunité acquise à la suite de la vaccination.
Le professeur Bruno Mégarban, interrogé par Ercine Lebovitch sur France Info. Et pour passer des fêtes les plus sereines possibles, les autorités et le conseil scientifique appellent à la prudence pour le nouvel an. La consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique. À Paris, le feu d'artifice et le concert du 31 décembre sont annulés. Ailleurs en Europe, certains n'attendent pas le mois de janvier pour serrer davantage la vis. En Grande-Bretagne, le gouvernement envisage d'interdire les rassemblements en intérieur après Noël pendant 2 semaines. Et les Pays-Bas s'apprêtent à annoncer de nouvelles restrictions. Correspondance d'Antoine Moutou.
Dès la confirmation par les médias néerlandais de la tenue ce soir en urgence d'une conférence de presse sur le Covid-19, les centres des grandes villes ont été pris d'assaut par de nombreuses personnes, inquiètes de ne bientôt plus pouvoir faire leurs achats de Noël. À La Haye, dans l'après-midi, certains magasins connaissaient des files d'attente interminables. À Rotterdam, les autorités ont même appelé à éviter le centre-ville. Si les informations fuitées dans la presse s'avèrent exactes, le Premier ministre Mark Rutte annoncera ce soir la fermeture dès demain matin de l'ensemble des commerces dits non essentiels. Des cafés et des restaurants. Depuis plusieurs semaines déjà, ils étaient contraints de baisser le rideau chaque soir à 17h et de nombreuses mesures abandonnées en été avaient déjà fait leur retour, comme le port obligatoire du masque dans les lieux clos. Mais face au variant Omicron, le comité scientifique et le gouvernement disent se montrer très inquiets. La Haye, Antoine Moutot, France Inter.
En déplacement aux Antilles, Jean-Luc Mélenchon en a profité pour égratigner le gouvernement et ses méthodes qu'il qualifie de brutales. Le candidat de la France insoumise à la présidentielle craint que le pass vaccinal n'aggrave la situation aux Antilles. Lui suggère des tests gratuits pour tout le monde à l'approche des fêtes. Sur fond de tensions sociales et de crise sanitaire, Jean-Luc Mélenchon veut montrer qu'il est au chevet des Antillais. Reportage en Martinique de Laurence Perron.
Ouais, bah bon.
Sur les bancs du square de la Savane, en plein milieu de Fort-de-France, des jeunes se tressent les cheveux pour tuer le temps, une bouteille de rhum à leurs pieds. Le couvre-feu de 20h, pour eux, ça n'existe pas.
Oui, on va se révolter. Et jusqu'à la fin.
Ici, on a la vie chère par rapport aux France. Mais tu vois, les blancs là-bas, il faut beaucoup d'enfants, des prêts pour maison, des prêts pour voiture, et puis après, ils disent qu'ils ont la vie chère.
On ne veut plus de Macron comme président, il est nul.
Le préfet de Martinique aussi, on ne le veut plus non plus.
L'instauration de ces nouvelles restrictions n'est pas sanitaire, croient les gens ici. C'était pour éviter que la Martinique ne s'embrase, parce que la crise Covid est une goutte d'eau d'une colère qui ne demandait qu'à déborder de son lit. Karine Cavas, militante insoumise.
Il y a eu aussi des colères que les gens ont accumulées et aujourd'hui ils en ont marre.
Jean-Luc Mélenchon acquiesce, tout en s'appliquant à ne pas passer pour un incendiaire, reprenant la libération des esclaves pour faire passer son message.
La mélopée du capitalisme vient de loin. Les mânes de ceux qui ont monté ces marches ont vaincu la captivité. Et pour finir, c'est encore nous qui allons maintenir les rêves suivants de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci à vous.
L'insoumis en chef est ici en terrain conquis. En 2017, il était arrivé en tête au premier tour devant Emmanuel Macron. Fort-de-France, Laurence Perron, France Inter.
Jean-Luc Mélenchon qui tiendra ce soir un meeting au Lamentin en Martinique. Il a été retrouvé sain et sauf. Hamza, 12 ans, avait été enlevé hier soir par son père dans le Pas-de-Calais, ce qui avait déclenché le dispositif alerte enlèvement, alerte levée donc, et son père a été placé en garde à vue. Il y aura une enquête disciplinaire après les incidents hier soir au stade Charletti. C'est ce qu'annonce la Fédération française de football. Le match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais a dû être interrompu après des jets de fumigène, des bagarres déclenchées par les supporters ultra-lyonnais. Et ces violences récurrentes désespèrent les vrais amateurs de ballon rond, comme ceux rencontrés à Lille par Alexandre Vaux avant le coup d'envoi de Lille-Auxerre en Ligue 2.
Cédric est venu d'Abbeville avec son fils Evan et son beau-père Francis. Avant d'entrer au stade, il espère juste ne pas voir de violence comme hier soir à Paris.
C'est un petit peu la crainte, c'est choquant. Après, je pense qu'il faut de la fermeté et tous ceux qui se battent ou qui jettent des projectiles sur les joueurs devraient être interdits à vie de stade pour pouvoir justement que les enfants en profitent. C'est avant tout une fête, un amusement et pas pour venir se défouler et insulter tout le monde et voilà, se battre. Il y a eu le problème en Angleterre il y a une vingtaine d'années, ils ont réussi à éradiquer le hooligalisme. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Depuis le début de la saison, les incidents dans les stades se multiplient et les mesures annoncées jeudi par le gouvernement n'ont pas empêché les violences d'hier, s'inquiète Francis.
Maintenant, chaque match, c'est comme ça. Alors, je trouve que c'est inadmissible. Nous, on nous fouille tout et puis ils arrivent à balancer des trucs. Ils arrivent à rentrer avec des bouteilles d'eau et il paraît que maintenant, même, ils balancent des portables. Ils achètent des portables d'occasion et comme on a le droit de rentrer, puis ils les balancent. Surtout qu'on peut les ficher, ces gars-là, puis leur dire, terminé, hein. On rentre plus dans le truc et c'est fini. Hein. Pour qu'on aille au moins au stade pour se détendre, sinon c'est plus du sport.
À côté de lui, Evan, son petit-fils, espère simplement voir ses idoles, Bourak Yılmaz et Jonathan David, et une victoire lilloise, bien sûr.
Alexandre Vaux, le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et c'est plutôt gris, Jean-Michel Golinski.
Un dimanche souvent gris du nord de la Loire à la frontière allemande, contraste avec le soleil dominant dans la moitié sud du pays, mais avec, au réveil, des brouillards souvent givrants. Ces grisailles risquent d'ailleurs d'évoluer plus lentement près de la Garonne, sur l'Auvergne, la haute vallée du Rhône, le Val-de-Saône ainsi que sur le Haut-Rhin. Et puis, sur le littoral du Languedoc et du Roussillon, le ciel sera assez variable, ponctué d'entrées maritimes. En fin de nuit, les gelées seront fréquentes dans l'est et dans la moitié sud. En journée, petite baisse des valeurs à prévoir dans le quart sud-ouest, entre 3 et 4 degrés. Ailleurs, les maximales vont se stabiliser au même niveau que la veille.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.